Chapitre 7 Sur l'aplomb 1 Trois semaines s'étaient écoulées depuis le banquet de bienvenue à la maison du maire et l'incident survenu au repos des voyageurs. Il n'y avait pas eu d'autre anicroche entre le cas-tête de Roland et celui de Jonas. Dans le ciel nocturne, la lune des baisers avait décru et la lune du colporteur fait sa première et timide apparition. Les journées étaient lumineuses et tièdes, même les vieux reconnurent qu'ils n'avaient pas souvenance d'un plus bel été. Au milieu d'une matinée aussi magnifique que les autres de cet été-là, Suzanne Delgado galopait sur un rossio de 2 ans, du nom de Pylône, le long de l'aplomb au nord. Le vent séchait ses larmes sur ses joues et chahutait sa chevelure dénouée derrière elle, tandis qu'elle allait bon train. Elle poussait Pylône pour qu'il pressât encore l'allure, lui talonnant légèrement les flancs de ses bottes sans éperon. Pylône accéléra aussitôt d'un cran, couchant les oreilles, la queue ballante. Suzanne, vêtue d'un jean et de la chemise kaki délavée extra large, l'une de son pas, d'où venait tout le mal, était penchée sur la selle d'exercice légère, une main sur le pommeau, l'autre flattant l'encolure soyeuse et robuste de sa monture.
« Encore !» murmura-t-elle. « Encore plus vite, va, mon garçon !»
Pylône franchit un nouveau palier. Qu'il eût de la ressource, elle le savait. Qu'il en eût même au-delà, elle le soupçonnait. Il filait le long de la plus haute crête de l'aplomb, mais Suzanne voyait à peine la magnifique étendue de terrain pontu en dessous d'elle, tout en vert et or, et la façon qu'elle avait de se fondre dans la brume bleutée de la mer limpide. N'importe quel autre jour, cette vue et la brise fraîche à la senteur saline l'auraient transportée. Mais aujourd'hui, elle ne désirait qu'entendre le tonnerre sourd et régulier des sabots de Pylône et sentir la souplesse de ses muscles sous elle. Aujourd'hui, elle voulait dépasser ses propres pensées. Et tout ça parce qu'elle était descendue le matin même vêtue d'une vieille chemise de son père pour monter à cheval. 2. Tante Corde était devant le fourneau, empaquetée dans sa robe de chambre et ses cheveux encore retenus dans une résille. Elle se servit un bol de porridge et la porta sur la table. Suzanne avait su que l'humeur était au vinaigre dès que sa tante s'était retournée dans sa direction, le bol à la main. Elle avait remarqué que, dans son mécontentement, Tante Corde pinçait spasmodiquement les lèvres ainsi que le coup d'œil de désapprobation dont elle gratifia l'orange que pelait Suzanne. Sa tante en avait toujours gros sur le cœur, regardant l'or et l'argent qu'elle avait espéré avoir en sa possession en ce moment même, pièce qui lui serait encore refusée quelque temps, par suite de la décision espiègle de la sorcière que Suzanne dut rester vierge jusqu'à l'automne. Mais point n'était là le plus important, Suzanne le savait. Pour parler crûment, chacune en avait plus qu'assez de l'autre. L'argent ne représentait que l'une des espérances déçues de Tante Corde. Elle avait compté avoir la maison en bordure de l'aplomb pour elle seule cet été-là, exception faite peut-être de la visite occasionnelle de Messire Eldred Jonas, dont Cordelia semblait s'être entichée pour de bon. Au lieu de cela, les deux femmes en étaient au même point, l'une voyant approcher le jour où elle n'aurait plus ses règles, avec sa bouche en lame de couteau et réprobatrice dans une figure tout autant en lame de couteau et réprobatrice, ses minuscules seins en forme de pomme dissimulés sous ses robes à haut col et tour de cou. « Le cou, » disait-elle fréquemment à Suzanne, « est la première chose qui se relâche. » Et ses cheveux, qui, perdant leur ancien lustre châtain, montraient des filaments gris. L'autre, jeune, intelligente, agile et approchant de l'apogée de sa beauté physique. Elles se tapaient mutuellement sur les nerfs, chaque mot semblant provoquer une étincelle, ce qui n'avait rien de surprenant. L'homme qui les avait aimées suffisamment l'une et l'autre pour les faire s'aimer entre elles n'était plus là. « Allez-vous sortir sur ce cheval ?» avait demandé Tante Corde, posant son bol et s'asseyant dans un rayon de soleil matinal. C'était un éclairage peu avantageux, sous lequel elle ne se serait jamais laissée surprendre en présence de Messire Jonas. La lumière crue donnait à son visage l'aspect d'un masque sculpté. Elle avait un bouton d'herpès au coin de la bouche, ce qui lui arrivait toujours quand elle dormait mal. « Si fait !» dit Suzanne. Vous devriez manger davantage. Ça ne vous tiendra pas au corps jusqu'à 9 heures, petite.
Ça me tiendra suffisamment, avait répondu Suzanne, se hâtant de finir les quartiers d'orange. Elle ne voyait que trop vers quoi la discussion tendait, lisait l'aversion et la réprobation dans les yeux de sa tante, et ne désirait qu'une chose, quitter la table avant que l'orage n'éclate.
Pourquoi ne point me laisser vous donner une platée de la même chose ? Demanda tante Corde, laissant tomber avec un plouf sa cuillère dans le porridge.
Aux oreilles de Suzanne, cela retentit comme le sabot d'un cheval frappant de la boue ou de la bouse, et lui provoqua un haut-le-cœur.
Ça vous calera l'estomac jusqu'au déjeuner si vous prévoyez de chevaucher jusque-là, car je suppose qu'une jeune et jolie personne telle que vous n'a cure des tâches ménagères.
Je les ai accomplies.
Et vous le savez très bien, ajouta-t-elle mentalement. Je m'en suis chargé pendant que vous étiez assise devant votre miroir à vous tripoter ce vilain bouton qui vous a poussé au coin de la bouche.
Tante Corde fit choir un gros morceau de beurre laitier dans sa dégoûtation. Suzanne ne voyait pas comment la bonne femme faisait pour rester si mince.
Non, vraiment pas. Elle le regarda fondre.
Un instant, le petit déjeuner parut avoir une chance de se terminer sur une note raisonnable et civilisée, après tout.
C'est alors que la chemise était venue sur le tapis.
Avant que vous ne sortiez, Suzanne, j'aimerais que vous vous ôtiez de sur le dos le haillon que vous portez et le remplaciez par l'une de ces casaques d'équitation toutes neuves que Thorin vous a fait parvenir il y a 2 semaines de ça.
C'est le moins que vous puissiez faire pour montrer votre...
Tout ce que sa tante aurait pu dire, passer ce cap, aurait été submergé par la colère, même si Suzanne ne l'avait pas interrompue. Elle caressa la manche de sa chemise dont elle aimait tant la texture. Les multiples lessives l'avaient rendue douce comme du velours.
Ce haillon appartenait à mon père.
Si fait !
À patte, renifla tante Corde. Elle est trop grande pour vous, usée jusqu'à la corde, et de toute façon absolument pas convenable. Quand vous étiez plus jeune, c'était sans importance que vous portiez une chemise d'homme boutonnée par devant. Mais à présent que vous avez un buste de femme...
Les casaques d'équitation étaient encore sur leur porte-manteau dans le coin. On les avait livrés 4 jours auparavant et Suzanne n'avait même pas daigné les monter dans sa chambre. Au nombre de 3, une rouge, une bleue, une verte, elles étaient toutes en soie et devaient valoir une petite fortune, sans aucun doute. Elle exécrait leurs prétentions et leur apparence éhontée de fanfreluches bouffantes, amples manches conçues pour flotter au vent dans un flou artistique, absurdité de grands cols informes, et bien sûr, décolleté à profonde échancrure qui était probablement tout ce que Thorin regarderait si elle se montrait devant lui, revêtue de l'une d'elles. Ce qu'elle ne ferait certainement pas s'il lui était permis d'y couper.
« Je n'attache point d'intérêt à mon buste de femme, comme vous dites, et il ne saurait intéresser quiconque pendant que je monte à cheval, » dit Suzanne.
« Peut-être, ou peut-être pas. Si l'un des maquignons de la baronnie devait vous apercevoir, et même Rény, il est toujours en vadrouille dans le coin, vous le savez très bien, ça ne ferait aucun mal qu'il aille rapporter à Hart qu'il vous a vu portant l'une des camisas dont il vous a si aimablement fait présent. Ne croyez pas ? Pourquoi faut-il que vous soyez une telle tête de mule, petite ? Pourquoi vous montrez-vous toujours si injuste et de mauvaise grâce ?
Qu'est-ce que ça peut vous faire ?
Comme ça ou le contraire ? Avait demandé Suzanne.
Vous avez touché l'argent, non ?
Et vous en toucherez encore.
Une fois qu'il m'aura baisé.
Tante Corde, outrée, le visage blanc de colère, s'était penchée à travers la table pour lui donner une gifle.
Comment osez-vous utiliser un tel mot sous mon toit, espèce de malablada ? Comment osez-vous ?
Ce fut alors que ses larmes avaient commencé à couler quand elle l'avait entendu prétendre être chez elle.
C'était la maison de mon père !
La sienne et la mienne. Vous n'aviez nul endroit où aller, sauf peut-être à l'hospice. Et il vous a recueilli. Il vous a recueilli. Vous m'entendez, ma tante ?
Elle tenait encore les deux quartiers d'orange et les lui lança à la figure. Puis elle repoussa la table si violemment que sa chaise vacilla sur ses pieds, bascula et la versa sur le sol. L'ombre de sa tante l'enveloppa. Suzanne rampa frénétiquement pour lui échapper, les cheveux épars, sa joue lui picotant sous le soufflet, les yeux pleins de chaudes larmes, sa gorge serrée et brûlante. Elle finit par se remettre debout.
« Fille ingrate !» lui dit sa tante d'une voix douce, si venimeuse qu'elle en devenait caressante. « Après tout ce que j'ai fait pour toi et tout ce que Art Thorin a fait pour toi, car le bourrin que tu comptes monter ce matin était un gage de respect de Thorin envers...
« Pylône était à nous !»
hurla-t-elle, rendue quasi folle de rage par ce brouillage délibéré de la vérité.
« Tout était à nous ! Les chevaux, les terres, tout était à nous !»«
Baisse le ton !» fit Tante Corde. Suzanne inspira profondément, tâchant de retrouver un peu de maîtrise d'elle-même. Elle ôta les cheveux qui lui masquaient la figure, révélant la marque rouge que la main de sa tante avait laissée sur sa joue. Cordelia tressaillit légèrement en la voyant.
« Mon père n'aurait jamais permis ça !» dit Suzanne.
« Il ne m'aurait jamais laissé devenir la gueuse de Thorin. Quels qu'aient pu être ses sentiments envers Thorin en tant que mère ou comme son patrono, il n'aurait jamais autorisé une chose pareille. Et vous le savez très bien. Tu le sais très bien. »
Tante Corde leva les yeux au ciel, puis se frappa la tempe du doigt comme si Suzanne était devenue folle.
« Tu y as consenti de toi-même, mamselle fraîche et rose. Si fait. Et si vos lubies de gamine vous poussent maintenant à vouloir vous dédire de ce qui a été dit, si fait !»
reconnut Suzanne.
« J'ai accepté ce marché, si fait !»« Après avoir été harcelé par vous jour et nuit, après que vous m'avez conjuré d'accepter en pleurant. »«
Qui ça ? Moi ? Jamais de la vie !» s'écria Cordelia, piquée au vif.
« Vous avez déjà oublié, ma tante ?
Si fait, je suppose. »«
Comme ce soir, vous aurez oublié m'avoir souffleté au petit déjeuner. »« Eh bien, moi, je n'ai point oublié !» Tu as pleuré, assurément. Tu m'as dit en pleurant que tu avais peur qu'on nous chasse de nos terres, puisque nous n'avions plus aucun titre de propriété, qu'on se retrouverait sur les routes. Tu as pleuré et tu m'as dit « Arrête de t'adresser à moi comme ça !»
hurla Tante Corde. Rien sur terre ne l'enrageait autant que de se voir renvoyer son propre tutoiement.
Tu n'as pas plus le droit d'utiliser l'ancien langage que de te plaindre avec des bêlements stupides. Va-t'en ! « Déhierpie d'ici !»
Mais Suzanne ne s'arrêta pas là, saisie d'une fureur débordante qui refusait de se laisser détourner de son objet.
« Tu as pleuré en me disant qu'on serait forcé de partir, expédié dans l'Ouest, qu'on ne reverrait jamais la demeure de mon pas, ni Humbry. Et puis quand tu m'as eu bien effrayé, vous m'avez parlé d'un mignon petit bébé que j'aurais, vous avez ajouté que nos terres nous seraient rendues, nos chevaux de même. En gage de l'honnêteté du maire, je possède un cheval que j'ai moi-même aidé à mettre bas. Et qu'ai-je fait pour mériter tout ça, qui aurait été mien dans tous les cas, n'eût été la perte d'une paperasse? Qu'ai-je fait pour qu'il vous donne de l'argent? Qu'ai-je fait d'autre que lui promettre de baiser avec lui, pendant que son épouse depuis 40 ans dormira au bout du couloir?
« C'est l'argent que tu veux, alors ?» demanda Tante Corde avec un sourire rageur. « C'est ça que tu veux ? Si fait, tu l'auras, alors ! Prends-le, garde-le, perds-le ! Nourrissons les cochons, je m'en moque !»
Elle se tourna vers sa bourse, accrochée à un montant près du fourneau. Elle commença à fouiller dedans, mais ses gestes perdirent rapidement de leur conviction et ralentirent. Un miroir ovale était fixé à gauche de la porte de la cuisine. Suzanne y surprit le visage de sa tante. Ce qu'elle y eut, mélange de haine, de consternation et de cupidité, lui serra le cœur.
« Laisse tomber, ma tante.
Je vois combien tu répugnes à t'en séparer et je n'en voudrais pour rien au monde de toute façon. C'est le prix de la putasserie. »
Tante Corde pivota vers elle, scandalisée, oubliant sa bourse fort à propos.
« Cela n'a rien à voir avec de la putasserie, stupide rejetonne !»« Quoi, la plupart des grandes femmes de l'histoire ont été des gueuses et la plupart des grands hommes sont fils de gueuses. Ça n'est point de la putasserie !»
Suzanne arracha la casaque rouge de son porte-manteau et la tint devant elle. La chemise se moula sur ses seins comme si elle n'avait attendu que ça.
« Alors pourquoi m'envoie-t-il des habits de putain ?»«
Suzanne !» fit Tante Corde les larmes aux yeux. Suzanne lui jeta la casaque comme elle lui avait lancé les quartiers d'orange. Elle atterrit à ses pieds.
« Ramassez-la donc et portez-la vous-même si ça vous dit !» Vous pouvez aussi lui ouvrir les cuisses si ça vous chante. »
Là-dessus, elle s'était détournée et avait franchi la porte à toute allure, poursuivie par les cris d'hystérie de sa tante.
« Ne va point te mettre des idées folles en tête, Suzanne! Les idées folles entraîneraient une folle conduite, et il est trop tard pour l'une comme pour l'autre. Tu as donné ton accord !»
Elle ne le savait que trop, et avait beau mener pylône à un train d'enfer le long de l'aplomb, elle ne pourrait jamais devancer ce savoir. Elle avait accepté, et Pat Delgado aurait eu beau être, ô combien, horrifié devant le guépier dans lequel elle s'était fourrée, il aurait vu au moins une chose clairement. Elle avait fait une promesse, et les promesses devaient être tenues. L'enfer attendait ceux qui ne les tenaient point. 3. Elle retint le rossillon tant qu'il avait du souffle en réserve. Regardant derrière elle, elle vit qu'elle avait couvert presque une demi-lieue et réduisit encore l'allure. Petit galop, trot, train de promenade. Elle inspira profondément, puis expira. Pour la première fois de la matinée, elle prit conscience de la beauté éclatante du jour. Les mouettes qui décrivaient des cercles dans l'air brumeux vers l'ouest, l'herbe haute qui l'entourait et les fleurs nichées dans le moindre recoin ombreux, bleuets, lupins, phlox, et ses préférées, les dauphinelles d'un bleu soyeux si délicat. De partout montait le bourdonnement somnolent des abeilles. Ce son l'apaisa, et le trop-plein de ses émotions se vidant quelque peu, elle fut capable d'admettre quelque chose la touchant directement. De l'admettre, puis de le formuler à haute voix.
« Will Dearborn ?»
dit-elle, frissonnant quand ce nom sortit de sa bouche. Même s'il n'y avait personne pour l'entendre, hormis Pylône et les abeilles. Aussi le répéta-t-elle, et à peine l'eut-elle prononcé que, portant son poignet à ses lèvres, elle le baisa à la saignée, là où le pouls bat à fleur de peau. Son geste la choqua, car elle le fit sans y penser, et davantage encore, car le goût de sueur de sa propre peau lui provoqua une excitation immédiate. Elle sentit la nécessité de se rafraîchir les sangs, comme elle l'avait fait dans son lit après l'avoir rencontré. Vu l'état dans lequel elle errait, ce serait tôt fait. Au lieu de ça, elle se contenta de grommeler le juron favori de son père. « Ah, mort de bleu !» en crachant loin de ses bottes. Will Dearborn avait semé beaucoup trop de désordre dans sa vie ces 3 dernières semaines. Will Dearborn, avec ses yeux bleus troublants, ses cheveux bruns en bataille, son attitude collée montée, si prompt à porter des jugements. « Je sais me montrer discret, madame. Quant à la bienséance, je suis étonné que vous connaissiez ce mot. » Chaque fois qu'il y a pensé, son sang bouillonnait de colère et de honte. De colère, surtout. Comment osait-il porter un jugement ? Lui, qui avait grandi sans être privé d'aucun luxe, avec sans nul doute des serviteurs veillant à combler son moindre caprice, et de l'or à ne savoir qu'en faire, on devait lui donner des choses qu'il désirait gratuitement, une façon comme une autre de s'insinuer dans ses bonnes grâces. Qu'est-ce qu'un jeune garçon tel que lui, car qu'était-il d'autre qu'un garçon, au fond, pouvait savoir des choix difficiles qu'elle avait faits ? Et plus précisément, touchant cette affaire, comment un Will Dearborn d'Emphill pouvait-il comprendre qu'elle n'avait pas réellement choisi ? Qu'elle y avait été conduite un peu comme un chaton égaré, ramené à sa caisse par sa mère chatte, par la peau du cou. Pourtant, il ne laissait point son esprit en repos.
Elle savait, même si Tante Corde l'ignorait, qu'il y avait eu une tierce personne présente pendant leur querelle de ce matin. Elle savait aussi autre chose, quelque chose qui aurait bouleversé sa tante outre mesure. Will Dearborn ne l'avait pas oublié, lui non plus. 4. Une semaine environ après le banquet de bienvenue et la remarque désastreuse et blessante de Dearborn à l'endroit de Susan, le simplet qui vidait les fonds de verre au repos des voyageurs, celui qu'on appelait Chimie, avait fait une apparition au cottage que celle-ci partageait avec sa tante. Il tenait un énorme bouquet composé pour la majeure part de fleurs sauvages qui poussaient sur l'aplomb, parsemé aussi d'églantines lies de vin. Elles y mettaient comme des signes de ponctuation rose foncé. Le garçon avait poussé la grille avec un sourire ravi, sans attendre qu'on l'invite à entrer. Suzanne était en train de balayer l'allée. Tante Corde était dans le jardin derrière la maison. Ce qui était heureux, mais pas très surprenant. Ces jours, moins elle se voyait, mieux elle se portait. Avec un mélange d'horreur et de fascination, Suzanne avait regardé Chimie remonter l'allée, rayonnant derrière son fardeau floral.
« Bonjour à vous, Suzanne Delgado, fille de Pat, » dit Chimie avec enjouement. J'ai en commission et implore votre pardon pour la dérangerie. Si fait, car je suis un problème pour les gens et je sais pareil qu'eux. Ils sont pour vous, venez.
Il lui mit le bouquet dans les mains et elle aperçut une petite enveloppe glissée entre les fleurs.
Suzanne,
fit la voix de Tante Corde de l'autre côté de la maison tout en se rapprochant.
Suzanne, j'ai bien entendu la grille? Oui, ma tante,
avait-elle répondu. Maudite soit le oui fine de la bonne femme. Suzanne avait prestement cueilli l'enveloppe parmi Flox et Pâquerette et l'avait fourrée dans la poche de sa robe.
« Ils sont de la part de mon troisième meilleur ami, » dit Chimie. « J'ai trois amis différents maintenant, autant que ça. »
Il leva deux doigts, fronça le sourcil, enleva deux autres, puis un sourire magnifique éclaira son visage.
Arthur Heath est mon premier meilleur ami, Dick Stockworth mon deuxième, et mon troisième, c'est...
Chut, lui intima Susan à voix basse avec une violence qui fit se faner le sourire de Chimie.
Pas un mot de tes trois amis.
Une drôle de petite rougeur, un accès de fièvre ou presque, courant sur sa peau, parut glisser de ses joues à son cou, puis de là dévaler jusqu'à ses pieds. Il avait été beaucoup question à Ambry des nouveaux amis de Chimie la semaine précédente. On avait même parlé de rien d'autre, à ce qu'il semblait. Suzanne n'avait entendu colporter les histoires les plus saugrenues, mais si elles n'étaient point vraies, pourquoi les versions rapportées par tant de témoins différents se ressemblaient-elles autant? Suzanne tentait encore de reprendre son calme quand Tante Corde apparut à l'angle de la maison. Chimie recula d'un pas en l'apercevant, sa confusion se changeant en effarement total. Sa tante, allergique aux piqûres d'abeilles, était pour l'heure emmaillotée de la sombrera de paille qui la coiffait à l'ourlet de sa robe de jardin fanée, dans une espèce de gaze lui donnant un aspect très insolite en plein soleil et une allure tout à fait étrange et effrayante à l'ombre. En guise de touche finale à son accoutrement, elle tenait dans l'une de ses mains gantées un sécateur plein de terre. Elle vit le bouquet et tomba dessus, sécateur levé. Ayant rejoint sa nièce, elle glissa les cisailles dans une boucle de sa ceinture. Avec une certaine répugnance, nota la dite nièce et écarta ce qui lui voilait la face.
« Qui vous les a envoyés ?»«
Je ne sais point, ma tante, » répondit Suzanne avec un calme qu'elle était loin d'éprouver.
« C'est le jeune homme de l'auberge. »«
Auberge !»
fit écho Tante Corde avec un reniflement de mépris. « Il ne semble point connaître qui l'a expédié ici, » poursuivit Suzanne. « Si seulement on pouvait lui faire débarrasser le plancher. »«
C'est que... Bien, je suppose que vous diriez qu'il est un peu... »«
Simplet, mais je sais. »
Tante Cord lança un coup d'œil irrité à Susan, puis reporta son attention sur Chimie. Mains gantées aux genoux, elle l'apostropha de la sorte.
« Qui a envoyé ces fleurs, jeune homme ?»
Les pans de sa voilette qu'elle avait repoussée retombèrent en place. Chimie recula d'un nouveau pas, l'air terrorisé.
« Est-ce par hasard de la part de quelqu'un de Front de Mer ? De la part peut-être du maire Thorin ? Dites-le moi et je vous donnerai un sou. »
Susan, le cœur serré, fut certaine qu'il allait parler. Il n'aurait point le bon sens de comprendre qu'il allait lui causer des ennuis. Will ne l'avait pas eu non plus, apparemment. Mais Chimie se contenta de faire non de la tête.
Souviens point. La mémoire comme une passoire, ça y est. Si fait. Stanley, il dit que j'ai un petit poids dans la tête.
Son sourire resplendit à nouveau, magnifique, alignement régulier de dents blanches. Tante Cord y répondit par une grimace.
Ah ! Pff ! Filez, en ce cas !
Et retourner directement en ville, inutile de rôder par ici en espérant glaner un brimborion. Un petit gars qui ne se souvient de rien ne mérite pas un seul sou. Et que je ne vous revois plus par ici, quel que soit celui qui vous mande d'apporter des fleurs à la jeune Saille. Vous m'avez comprise ? Chimie avait acquiescé avec la dernière énergie. Puis...
Saille !
Tante Cord le fusilla du regard. Le pli vertical de son front était très prononcé ce jour-là.
Pourquoi vous êtes tout empaqueté dans des toiles d'araignée, Saille ? Hors d'ici, impudent goujat !
S'écria Tante Cord. Elle avait une voix de stentor quand elle daignait s'en servir. Et Chimie avait fait un bond en arrière, alarmée. Une fois certaine qu'il se dirigeait vers la grande rue pour redescendre vers la ville sans manifester la moindre intention de revenir vers leur barrière et y rôder dans l'espoir d'un pourboire, Tante Cord s'était retournée vers Susan.
Mettez-les dans l'eau avant qu'elles ne flétrissent, mamselle fraîche et rose, et ne restez point là à musarder en vous demandant qui pourrait bien être votre mystérieux admirateur.
Là-dessus, Tante Cord avait souri, vraiment souri. Ce qui blessait le plus Susan, la troublait le plus, c'était que sa tante n'avait rien d'une ogresse de conte de fées ni d'une sorcière comme Rhea du Chaos. Elle n'avait pas un monstre devant elle, rien qu'une vieille fille affligée de prétentions à un certain statut social, d'un amour effréné de l'or et de l'argent, et de la crainte de se retrouver livrée à elle-même sans un sou dans le vaste monde.
« Pour de petites gens comme nous ?»« Susie, ma chérie, » dit-elle avec une tendresse pesant des tonnes, il vaut mieux s'en tenir aux tâches ménagères et laisser les rêves à ceux qui peuvent se les offrir.
5. Elle était persuadée que les fleurs venaient de Will, et elle avait raison. Son petit mot était rédigé lisiblement et d'une très belle écriture.
Chère Susan Delgado, je me suis adressée à vous un peu à la légère l'autre soir, et j'implore votre pardon. Puis-je vous voir et vous parler ? Il faut que ce soit en privé. C'est de la plus haute importance. Si vous consentez à me voir, confiez un message au porteur. C'est un garçon sûr.
Will Dearborn.
C'est de la plus haute importance. Souligné.
Malgré son violent désir de savoir ce qui était si important pour lui, elle s'interdit de faire quoi que ce fût d'inconsidéré. Il s'était peut-être amouraché d'elle. Et si c'était le cas, à qui la faute ? Qui lui avait parlé, était monté sur son cheval, lui avait montré ses jambes en une exhibition éclair quand elle en était descendue ? Qui lui avait posé les mains sur les épaules ? Elle avait embrassé ?
Les joues et le front lui brûlaient à se souvenir,
et une nouvelle onde de chaleur sembla lui parcourir le corps de haut en bas. Elle n'était point certaine de regretter le baiser, mais ça avait été une erreur de le donner, regret ou pas regret. Le revoir à présent en serait une bien pire. Pourtant, elle désirait le revoir, et savait au tréfond de son cœur qu'elle était prête à laisser de côté la colère qu'elle éprouvait contre lui. Il y avait aussi la promesse qu'elle avait faite. Cette malheureuse promesse. Cette nuit-là, elle demeura éveillée, à tourner et retourner dans son lit, se disant d'abord que ce serait mieux, plus digne, de garder simplement le silence, puis rédigeant des petits mots dans sa tête, malgré tout, certains altiers, d'autres pleins de froideur, d'autres encore additionnés d'un soupçon de flirt. Quand elle entendit les 12 coups de minuit, congédiant le jour d'avant et convoquant celui d'après, elle décida que trop, c'était trop. Elle s'était jetée au bas de son lit, avait gagné et ouvert la porte de sa chambre, puis passé la tête dans le couloir. En entendant les ronflements de tant de cordes, elle avait refermé sa porte, traversé sa chambre jusqu'au petit bureau près de la fenêtre et allumé sa lampe. Prenant une feuille de parchemin dans le tiroir du haut, elle la déchira en deux. À Hambry, le seul crime plus grand que gâter du papier était de gâter des bêtes de bon aloi. Puis écrivit hâtivement, sentant que la plus légère hésitation pourrait la condamner à des heures d'indécision. Sans salutation ni signature, elle écrivit sa réponse d'un trait. « Impossible de vous voir, ce ne serait point bien séant. » Après l'avoir plié menu, elle avait soufflé la lampe et s'était remise au lit, la petite missive fourrée sous l'oreiller. Elle dormait au bout de 2 minutes. Le lendemain, quand elle alla en ville faire le marché, elle était passée devant le repos des voyageurs qui, à 11 heures du matin, avait le charme de quelque chose de mort vilainement au bord d'une route. Devant le salon, un carré de terre battue était bisecté par une longue barre d'attache au-dessus d'un abreuvoir. Chimie poussait une brouette le long de la barre, collectant le crottin de cheval avec une pelle. Il portait une sombrera rose du plus haut comique et chantait « Chausson doré ». Suzanne doutait qu'un seul des chiens du repos s'éveillerait d'aussi bonne humeur que Chimie ce matin. Mais qui d'autre, tout bien considéré, était plus niais que lui? Elle jeta un coup d'œil alentour pour s'assurer que personne ne lui prêtait attention, s'approcha de Chimie et lui tapa sur l'épaule. Il eut d'abord l'air effrayé, et Suzanne ne lui en voulut point. D'après les histoires qui couraient, de Pape, l'ami de Jonas, avait failli tuer le pauvre gosse pour lui avoir aspergé copieusement ses bottes. Puis Chimie la reconnut.
« Salut, Suzanne Delgado, de là-bas, à l'entrée de la ville !» dit-il aimablement. « Je vous souhaite bien le bonjour, Sai !»
Il lui fit un salut, imitation amusante de celui des baronnies intérieures qui avait la faveur de ses 3 nouveaux amis. Elle lui fit une petite révérence en souriant. Étant en jean, elle dut faire semblant de pincer le bord de sa jupe, mais les femmes de Mégis s'étaient passées maître dans l'art de la révérence en robe imaginaire.
« Vous avez vu mes fleurs, Sai ?»
demanda-t-il, montrant du doigt le côté du repos auquel manquait un coup de peinture. Ce qu'elle aperçut la toucha profondément. Une rangée de dauphinelles bleues et blanches poussait le long du bâtiment. Elles lui parurent d'une vaillance pathétique à agiter là leur corolle de soie sous la faible brise matinale, entre la cour pelée et jonchée d'étrons et le débit de boissons mal équarries.
C'est toi qui les as fait pousser, Chimie ?
Si fait, c'est moi. Et messire Arthur Heath de Gilead m'en a promis des jaunes.
J'ai jamais vu de dauphinelle jaune.
Nenni, moi et tout, mais messire Arthur Heath dit qu'il en pousse à Gilead.
Il regarda Suzanne avec solennité, la pelle à la main, comme un soldat tiendrait un fusil ou une lance au garde-à-vous.
« Messire Arthur Heath m'a sauvé la vie, je ferai n'importe quoi pour lui. »«
Vraiment, Chimie ?» demanda-t-elle émue.
« Il a aussi une vigie, c'est un crâne d'oiseau, et quand il lui parle, qui fait blanc sans blanc, qu'est-ce que je ris ? Si fait, à me fendre en deux !»
Suzanne regarda autour d'elle à nouveau pour être sûre que personne n'était aux aguets, mis à part les totems sculptés de l'autre côté de la rue. Puis elle sortit son petit mot plié menu de la poche de son jean. « Tu voudrais bien donner ça à Messire Dearborn de ma part ? Il est aussi ton ami, non ?»«
Will ! Si fait !»
Il prit la lettre et la rangea soigneusement dans sa poche à lui. « Tu ne diras rien à personne ?»«
Chut ! »
fit-il en mettant un doigt sur ses lèvres pour sceller son accord. Ses yeux s'étaient arrondis de façon cocasse sous le ridicule chapeau rose de femme qui le coiffait.
Comme quand je vous ai apporté les fleurs. Cousu la bouche.
C'est ça, cousu la bouche. Porte-toi bien, Jimmy.
Vous aussi, Suzanne Delgado.
Il retourna à ses opérations de nettoyage. Suzanne était restée un moment à le regarder, se sentant mal à l'aise et mécontente d'elle-même. Maintenant qu'elle avait remis sa lettre avec succès, elle eut envie de demander à Jimmy de la lui rendre, de barrer ce qu'elle avait écrit et promettre de le rencontrer. Ne serait-ce que pour revoir ses yeux d'un bleu si franc la regarder en face. Puis, l'autre ami de Jonas, celui à la cape, sortit en flânant du magasin général. Elle était sûre qu'il ne l'avait pas vu. Il baissait la tête, roulant une cigarette. Mais elle n'avait point l'intention de forcer sa chance. Reynolds risquait d'en toucher un mot à Jonas, et ce dernier ne parlait que trop à tante Cord. Et si tante Cord apprenait que Suzanne passait du temps dans la journée avec le garçon qui lui avait apporté des fleurs, elle aurait droit à des questions. Des questions auxquelles elle n'avait nulle envie de répondre. 6.
Tout ça, c'est de l'histoire ancienne, Suzanne. L'eau a coulé sous les ponts. Mieux vaut ne plus ruminer le passé.
Arrêtant Pylone, elle contempla sur la pente de l'aplomb les chevaux qui paissaient en liberté. Ils étaient en nombre surprenant ce matin. Cette parade fit long feu. Ses pensées ne cessaient de revenir à Will Dearborn. Quel coup de malchance qu'elle l'ait connu. S'il n'y avait eu cette rencontre de hasard quand elle revenait du Chaos, elle aurait pu être en paix avec sa situation maintenant. Elle était une fille avec les pieds sur terre, après tout. Une promesse était une promesse. Elle ne se serait jamais attendue à jouer les oies blanches effarouchées devant la perte de son pucelage, car la perspective de porter un enfant et d'accoucher l'excitait, vraiment. Mais Will Dearborn était venu tout bouleversé. Il s'était logé dans sa tête, locataire défiant toute expulsion. La remarque qu'il lui avait faite pendant qu'il dansait ne la quittait plus, comme un refrain qu'on ne peut s'empêcher de fredonner malgré qu'on en est. Elle avait été cruelle, stupide et hypocrite, cette remarque. Mais ne comportait-elle point un grain de vérité ? Rhea avait eu raison au sujet de Arthurin. Suzanne n'avait plus aucun doute là-dessus. Elle supposa que les sorcières avaient raison sur la luxure des hommes, même si elles avaient eu tort sur tout le reste. C'était une idée peu réjouissante, mais probablement vraie. C'était Will, ce Dearborn, maudit soit-il, qui lui avait rendu difficilement acceptable l'inévitable, qui l'avait poussé dans des disputes où elle avait eu du mal à reconnaître sa propre voix, tant elle était stridente et désespérée, qui hantait ses rêves, rêves où il lui passait les bras autour de la taille et l'embrassait encore et encore. Elle mit pied à terre et descendit un peu à flanc de colline, les rênes à son poing. Pylone la suivit d'assez bonne grâce. Et quand elle fit halte pour fixer au loin la brume bleue au sud-ouest, il baissa la tête et se remit à paître. Elle pensait qu'il lui fallait revoir Will Dearborn encore une fois, ne serait-ce que pour donner une chance à son côté terre-à-terre inné de reprendre le dessus. Elle avait besoin de le voir sous son vrai jour, non tel que son imagination le lui peignait dans ses douces pensées et dans ses rêves plus doux encore. Une fois cela réglé, elle pourrait reprendre sa vie et faire ce qui devait être fait.
Peut-être était-ce la raison pour laquelle elle avait pris ce sentier, le même qu'elle avait emprunté hier, avant-hier et avant-avant-hier. Il chevauchait sur cette partie de l'aplomb. Du moins l'avait-elle entendu dire au marché d'en bas. Suzanne se détourna de l'aplomb, sachant soudain qu'elle le trouverait là, comme si ses pensées l'avaient appelé à elle, à moins que ce ne soit son cas. Elle n'aperçut que le ciel bleu et la crête basse des collines qui s'incurvaient doucement, telles les formes d'une odalisque sur son divan. Suzanne sentit l'amertume et la déception l'envahir. Elle en avait presque le goût dans la bouche, comme des feuilles de thé en décoction. Elle revint vers Pylône, comptant rentrer à la maison et s'acquitter des excuses qu'elle estimait devoir présenter. Plus vite elle le ferait, plus vite ce serait fait. Elle tendait la main vers l'étrier gauche, un peu de travers, pour le redresser, quand un cavalier surgit à l'horizon. Il se dessinait contre le ciel, juste à l'endroit qui lui évoquait la hanche de la courtisane. Rien de plus qu'une silhouette à cheval, mais elle sut immédiatement de qui il s'agissait.
« Fuis !» s'ordonna-t-elle. « Grimpe sur Pylône et au galop. Sauve-toi d'ici vite fait, avant que quelque chose de terrible ne se passe, avant que ce soit vraiment le cas, avant qu'il ne vienne t'emporter comme le vent, toi et tous tes beaux projets, dans le ciel et au-delà. »
Mais elle ne prit pas la fuite. Elle demeura les rênes de Pylône à la main et lui murmura à l'oreille quand le rossillon leva la tête et salua d'un hennissement le hongre bai dévalant la pente de la colline. Puis, Will fut là, l'observant du haut de sa selle, avant de descendre de sa monture d'une façon aisée et huilée que, pensait-elle, elle n'égalerait jamais malgré des années de pratique de l'équitation. Cette fois, elle n'eut droit ni à son talon planté en terre, ni à sa jambe tendue, ni à son coup de chapeau accompagnant un salut d'une solennité comique. Cette fois, le regard qu'il lui lança était franc, grave et d'une inquiétante maturité. Ils se dévisagèrent dans le grand silence de l'aplomb, Roland de Gilead et Suzanne de Mégis. Et dans son cœur, Suzanne sentit se lever la tempête. Elle la redoutait aussi fort qu'elle la trouvait bienvenue. 7.
« Bonne matinée, Suzanne, » dit-il. « Je suis heureux de vous revoir. »
Elle ne répondit rien, se contentant d'attendre et de le regarder. Entendait-il battre son cœur aussi distinctement qu'elle l'entendait? Bien sûr que non. Ce n'était que baliverne romantique. Malgré cela, il lui semblait que tout, dans un rayon de 50 mètres, aurait pu ouïr cette chamade. Will fit un pas vers elle. Elle recula d'autant, le considérant avec méfiance. Il baissa la tête un instant, puis la releva, lèvres serrées.
« J'implore votre pardon, » fit-il.
« Ah oui, » dit-elle avec sang-froid. « Ce que je vous ai dit l'autre soir était injustifié. » Elle sentit une étincelle de vraie colère. « Je me moque que ce soit justifié ou pas. Ce qui m'importe, c'est que c'était injuste et que ça m'a blessé. » Une larme débordant de son œil gauche roula le long de sa joue. Il lui restait des pleurs en réserve, après tout, semblait-il. Elle pensa que ce qu'elle venait de dire l'aurait peut-être rendu honteux, mais malgré la légère rougeur qui colora ses joues, il garda ses yeux fermement attachés aux siens.
« Je suis tombé amoureux de vous, » dit-il. « C'est pour ça que je vous ai traité ainsi. » C'est arrivé avant même que vous m'ayez embrassé, je crois bien.
Elle éclata de rire, mais la simplicité avec laquelle il s'était exprimé fit sonner faux son rire à ses propres oreilles, comme fêlé.
Messire Dearborn, Will, je vous en prie.
Messire Dearborn, répéta-t-elle avec la patience d'un professeur s'adressant à un élève peu éveillé. Cette idée est ridicule.
« Quoi ?
Après une seule rencontre, après un seul baiser, un baiser simplement fraternel ?
C'était elle à présent qui rougissait, mais elle se hâta de poursuivre. De telles choses arrivent dans les contes, mais dans la vraie vie, je ne crois pas. Mais le garçon ne détachait pas ses yeux des siens, et il y lisait une part de la vraie nature de Roland. Son goût profond du romanesque enfoui comme le fabuleux filon d'un métal étranger au cœur du granit de son pragmatisme. Il acceptait l'amour plus comme un fait que comme une fleur, et cela condamnait le dédain bienveillant de Suzanne à rester sans effet sur eux deux. « J'implore votre pardon, » répéta-t-il. Il possédait une sorte d'entêtement brut qui exaspérait, amusait et épouvantait Suzanne tout à la fois. « Je ne vous demande pas de répondre à mon amour, ce n'est pas pour cette raison que je vous ai fait cet aveu. Vous m'avez dit que vos affaires étaient compliquées. » À présent, il détourna les yeux des siens et regarda au loin vers l'aplomb. Il eut même un petit rire. « Je l'ai traité d'imbécile, n'est-ce pas ? Je vous l'ai dit en face. Qui est le plus imbécile, d'après vous ?» Elle ne put s'empêcher de sourire. « Vous avez dit aussi qu'on racontait qu'il avait un penchant pour la boisson et les filles en bouton. » Roland se frappa le front de la main. Si son ami Arthur Heath avait fait ce geste, elle l'aurait pris pour un effet comique délibéré. Mais rien de cela chez Will. Elle avait dans l'idée qu'il n'était pas très porté sur la plaisanterie. À nouveau, le silence s'installa entre eux, mais de façon bien moins inconfortable cette fois. Leurs deux chevaux, Flash et Pylône, paissaient tout leur content côte à côte. « Si nous étions des chevaux, tout serait bien plus facile, » songea-t-elle. Elle faillit pouffer. « Messire Dearborn, vous comprenez que j'ai consenti à un certain arrangement. » « Si fait. » Il sourit de la voir hausser le sourcil de surprise. « Je ne me moque pas de votre dialecte, il m'est simplement venu sur la langue. » « Qui vous a entretenu de mes affaires ?»« La sœur du maire. » « Coraline !» Elle fronça le nez, décidant in petto que cela n'avait rien d'étonnant, et elle supposa que d'autres l'auraient mis au courant de sa situation d'une manière encore plus crue, à commencer par Aldred Jonas, ou Réa du Curse pour continuer. Mieux valait laisser ça de côté. « Donc, si vous comprenez, et si vous ne me demandez point de répondre à votre... ce que vous croyez éprouver pour moi, quel que soit le nom que vous lui donnez... À quoi bon cet entretien? Pourquoi avoir cherché à l'obtenir de moi? À mon avis, il vous met dans une position des plus embarrassantes. Oui, convint-il, puis comme s'il énonçait un simple fait, il me met dans une position embarrassante, soit. Il m'est difficile de ne pas perdre la tête quand je vous regarde. Alors peut-être vaudra-t-il mieux pour vous ne point regarder, ne point parler, ne point penser. Sa voix était à la fois caustique et un peu tremblante. Où trouvait-il le courage de dire des choses pareilles, de les formuler tout à trac en la dévorant des yeux? « Pourquoi m'avez-vous envoyé le bouquet, ce petit billet? N'êtes-vous point conscient des ennuis que vous auriez pu me causer? Si vous connaissiez ma tante, elle m'a déjà chapitré à votre sujet, et si elle était au courant du billet, ou si elle nous voyait ensemble ici... » Elle jeta un regard autour d'elle, vérifiant que personne ne les observait. Apparemment toujours pas, autant qu'elle pouvait le dire. Il tendit la main et lui toucha l'épaule. Elle le dévisagea et il retira ses doigts comme s'il s'était brûlé. « Je vous ai parlé comme je l'ai fait pour que vous aussi vous compreniez, » dit-il. « C'est tout. Si je ressens ce que je ressens, vous n'êtes en rien responsable. » « Mais si, je le suis, » songea-t-elle. « Je t'ai embrassé. Je crois que je suis tout à fait responsable de ce que nous ressentons tous les deux, Will. » « Ce que je vous ai dit pendant que nous dansions, je le regrette du fond du cœur. Ne m'accorderez-vous pas votre pardon ?»« Si fait, » dit-elle. Et s'il l'avait prise dans ses bras à ce moment-là, elle l'aurait laissé faire et au diable les conséquences. Mais il se contenta d'ôter son chapeau et de le gratifier d'un charmant petit salut.
et la tempête s'apaisa dans son cœur.
Grand merci, Sai.
Ne m'appelez point comme ça, je déteste. Mon nom, c'est Susan.
M'appellerez-vous Will ?
Elle fit oui de la tête.
Très bien. Susan, je veux vous demander quelque chose, mais ce n'est plus l'individu qui vous a insulté et blessé parce qu'il était jaloux qui vous parle. Il s'agit de tout autre chose. Le puis-je ?
Si fait, je suppose, dit-elle prudemment.
Êtes-vous pour la filiation ?
Elle le regarda complètement sidéré. C'était la dernière question à laquelle elle s'était attendue, mais il l'observait avec sérieux.
Je m'attendais à ce que vous et vos amis comptiez les vaches, les armes à feu, les lances, les bateaux, que sais-je encore, répondit-elle. Mais je ne pensais pas que tu voudrais compter aussi les partisans de la filiation.
Elle vit la surprise se peindre sur son visage et le petit sourire au coin de ses lèvres. Cette fois, le sourire le fit paraître bien plus âgé qu'il n'était possible. Susan se remémora ce qu'elle venait juste de lui dire et, comprenant ce qui avait dû le frapper, partit d'un petit rire embarrassé.
« Ma tante a une façon comme ça de passer au tutoiement. Mon père l'avait aussi. Ça vient d'une secte du vieux peuple qui se faisait appeler les amis. Je connais. Il y a encore des gens de l'amitié dans la partie du monde où je viens.
Vraiment ?
Oui ? Ou si fait, si vous préférez. Je vais finir par prendre l'habitude. J'aime la façon dont s'expriment les amis. Ça sonne joliment.
Pas quand ma tante parle comme ça, observa Susan, repensant à la dispute à propos de la chemise.
Pour répondre à votre question, si fait, je suis pour la filiation. Parce que mon pas était pour. Si vous me demandez si je suis une chaude partisane de la filiation, je suppose que non. Nous n'en voyons pas grand-chose, ni n'en entendons beaucoup parler ces jours. À part des rumeurs et les histoires que colportent les vagabonds et les voyageurs de commerce au long cours. Maintenant qu'il n'y a plus de chemin de fer, elle haussa les épaules.
La plupart des gens ordinaires auxquels j'ai parlé semblent avoir le même sentiment. Et pourtant, votre mère, Thorin...
Thorin n'est point mon maire, rectifia-t-elle d'un ton plus tranchant qu'elle ne l'avait prévu.
Et pourtant, le maire Thorin de la baronnie nous a fourni toute l'aide que nous avons demandée et même celle que nous n'avons pas sollicitée. Je n'ai qu'à claquer des doigts et Kimbar Rimmer apparaît devant moi.
Alors ne les claquez point, fit-elle, ne pouvant s'empêcher de regarder autour d'elle.
Elle s'efforça de sourire pour bien lui faire sentir qu'elle plaisantait. Sans grand succès.
Les habitants de la ville, les pêcheurs, les fermiers, les cow-boys, ils disent tous du bien de la filiation, mais de façon distante. Cependant, le maire, son chancelier et les membres de l'association du cavalier, Langhill, Garber et toute cette bande, je les connais,
dit-elle sèchement.
Ils se montrent absolument enthousiastes dans leur soutien. Il suffit de mentionner la filiation devant le shérif Avery et ils se mettent à danser sur place. Dans chaque ranch, on nous offre à boire dans une coupe commémorant Arthur l'aîné, semble-t-il.
« On vous offre quoi ? » demanda-t-elle, légèrement espiègle. « De la bière ? De l'ale ? Du graff ? » ?»«
Aussi du vin, du whisky, un coup d'arquebuse, dit-il, sans lui rendre son sourire. C'est presque comme s'il voulait nous pousser à ne pas tenir notre parole. Ça vous paraît pas étrange ?
Si fait, un peu, mais pas plus que l'hospitalité à Humbry.
Dans ces contrées, quand quelqu'un, en particulier un jeune homme, déclare ne plus vouloir toucher une goutte d'alcool, les gens ont tendance à le croire timide, ne le prennent pas très au sérieux.
Et ce joyeux soutien de la part des huiles, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Étrange.
Et c'était le cas. Le travail de Pat Delgado l'avait mis en contact quotidiennement avec ses propriétaires terriens et éleveurs de chevaux. Susan, qui collait au basque de son pas chaque fois qu'il allait s'y venir, en avait connu beaucoup, elle aussi. Elle les trouvait plutôt pisse-froid en général. Elle n'arrivait pas à imaginer un John Croydon ou un Jack White brandir une chope à l'effigie d'Arthur l'aîné pour porter un toast sentimental, spécialement pas en milieu de journée, quand il fallait s'occuper du bétail ou en vendre.
Will ne la lâchait pas des yeux comme s'il déchiffrait ses pensées au fur et à mesure. « Mais probablement que vous ne fréquentez pas ces grosses légumes autant qu'autrefois, » fit-il, « avant le trépas de votre père, je veux dire. » « Peut-être pas, mais les bafouilleux apprennent-ils à parler à l'envers ?» Pas de rictus prudent, cette fois, son large sourire éclaira son visage. Mais Dieu qu'il était beau !«
Je suppose que non !»«
Pas plus que les chats ne changent leur couleur de poil, comme nous disons nous. » »« Mais le maire Thorin ne vous entretient-il pas de nous, mes amis et moi, quand vous êtes seul à seul ? Ou bien est-ce une question qui outrepasse ce que j'ai le droit de vous demander ?» « Je suppose que oui. »«
Je me moque bien de cela, » dit-elle, secouant hardiment la tête, ce qui fit se balancer sa longue tresse.
« Je comprends très peu la bienséance, comme certains ont eu la bonté de me le souligner. » Mais ni son air abattu, ni sa rougeur embarrassée ne la laissèrent aussi indifférente qu'elle s'y était attendue. Elle savait des filles qui aimaient à taquiner autant qu'à flirter. Et certaines poussaient loin la taquinerie. Mais elle semblait n'avoir aucun goût pour ça. Elle n'avait nulle envie de se faire les griffes sur lui, et elle poursuivit d'un ton radouci. « Je ne reste jamais seul avec lui, de toute façon. »« Oh, comme tu lui mens bien !» songea-t-elle tristement, se remémorant comment Thorin l'avait embrassée dans le couloir le soir de la fête, lui plotant les seins à tâtons tel un enfant, essayant de glisser la main dans un bocal de bonbons. Et comment il lui avait dit qu'il brûlait pour elle ? Oh, sale menteuse. De toute manière, Will, l'opinion de Hart sur vous et vos amis peut difficilement vous concerner, n'est-ce pas? Vous avez un travail à accomplir, c'est tout. S'il vous aide, pourquoi ne point l'accepter simplement et lui en être reconnaissant? Parce que tout n'est pas clair par ici, répondit-il, et la gravité presque sombre de sa voix effraya un petit peu Suzanne.
« Qu'est-ce qui n'est pas clair ?
Le maire ? L'association du cavalier ? De quoi parlez-vous ? » Il la regarda sans ciller, puis parut s'être décidé. « Je vais vous faire confiance, Suzanne. Je ne suis pas sûr d'avoir plus envie que tu me donnes ta confiance que ton amour, » fit-elle. Il opina. Et pourtant, pour accomplir le boulot qu'on m'a envoyé faire ici, il faut que je me fie à quelqu'un. « Pouvez-vous comprendre ça ?» Elle le regarda dans les yeux, puis acquiesça. Il vint près d'elle, si près qu'elle s'imagina sentir la chaleur de sa peau. « Regardez-la en bas, et dites-moi ce que vous voyez. » Elle lui obéit, puis haussa les épaules. « L'aplomb, tel qu'en lui-même ?» Elle sourit légèrement. Toujours aussi beau, ça a toujours été mon endroit préféré dans le monde entier. Si fait, c'est beau, soit. Que voyez-vous d'autre ? Des chevaux qui se coursent. Elle sourit pour bien montrer qu'elle plaisantait. C'était une vieille blague de son pas, en fait, mais il ne lui rendit pas son sourire. Point vilain à regarder et courageux, si les histoires qui circulaient déjà en ville étaient vraies, agile de ses mouvements et dans sa tête aussi. Pas vraiment le sens de l'humour, toutefois. Bah, il y avait pire comme défaut. Ploter les seins d'une fille à l'improviste, par exemple. Des chevaux, oui. Mais leur nombre vous semble-t-il le bon ? Vous avez vu des chevaux sur l'aplomb toute votre vie et vous êtes sûrement la personne ne faisant pas partie de l'association du cavalier la mieux qualifiée pour me le dire. Vous ne leur faites point confiance pour ça ? Ils nous ont donné tout ce que nous leur avons demandé, et ils sont aussi amicaux que des chiens sous la table du festin. Pourtant, non. Je ne crois pas que je leur fais confiance. Et vous me feriez confiance à moi ? Il la regarda fermement de ses yeux si beaux, si effrayants, d'un bleu plus sombre qu'il ne serait plus tard, n'étant point encore délavé par les soleils de 10 000 jours d'errance. « Je dois me fier à quelqu'un, » répéta-t-il. Elle baissa les yeux presque comme s'il l'avait rabroué. Il tendit la main et, la prenant gentiment au menton, lui releva la tête. « Cela vous paraît-il le nombre exact ? Réfléchissez bien. » Mais à présent qu'il avait attiré son attention sur ce point, elle eut à peine besoin de se concentrer.
Elle avait noté un changement depuis quelque temps, estima-t-elle. Mais il avait été graduel, donc facilement imperceptible. Non, dit-elle enfin. Leur nombre n'est pas le bon. Ça vous paraît trop ou pas assez ? Elle marqua un temps, reprit son souffle, expira dans un long soupir.
Trop. Beaucoup trop.
Will Dearborn, levant ses poings à hauteur d'épaule, les serra en signe de victoire. Ses yeux bleus brillèrent comme les lampes à étincelles dont son grand-pa lui avait parlé.
« Je le savais, dit-il, je le savais !»
8. « Combien de chevaux y a-t-il, là, en bas » demanda-t-il. « En dessous de nous, ou sur toute l'étendue de l'aplomb ?»«
Juste en dessous de nous. »
Elle regarda attentivement, sans faire de tentative pour compter réellement. Ça ne marchait pas, ne faisait que vous embrouiller les idées. Elle aperçut 4 bandes assez importantes d'une 20aine de chevaux chacune, se déplaçant sur le vert de la pente, en dessous, presque à l'instar des oiseaux dans le bleu du ciel au-dessus. Il y avait peut-être une 10aine de bandes plus restreintes, de loctuor au quatuor, plusieurs chevaux allant par paire. Ils évoquèrent des couples d'amoureux à Suzanne, mais c'était le cas de tout et n'importe quoi aujourd'hui, lui semblait-il. Et quelques-uns galopant en solitaire, de jeunes étalons pour la plupart.
« 160 ?» demanda-t-il à voix basse, d'un ton presque hésitant.
Elle le regarda avec surprise.
« Si fait. 160, c'était le nombre que j'avais en tête, au chiffre près. »
« Et ce que nous voyons correspond à quelle surface de l'aplomb ? Au quart, au tiers ?»«
Beaucoup moins, » fit-elle en le gratifiant d'un petit sourire. « Je pense que vous le savez. »«
Au sixième du total des pâtures non clôturées, peut-être. » »«
Si donc 160 chevaux pèsent en liberté sur chaque sixième, ça nous donne... » Elle attendit qu'ils disent le chiffre de 960.
Quand il le prononça, elle opina. Il regarda en contrebas encore un moment et grogna de surprise quand Flash vint le flairer du naseau dans le dos. Suzanne étouffa un rire derrière sa paume. À le voir repousser impatiemment son cheval, elle devina qu'il ne percevait toujours pas l'humour de la situation.
« À combien estimez-vous tous ceux qui sont à l'écurie, au dressage ou au travail ? » demanda-t-il.
À 1 pour 3 qu'on voit ici, au jugé. Par conséquent, nous parlerions de 1200 chevaux. Rien que de bon aloi, pas de muté.
Elle le regarda légèrement surprise.
Si fait, il n'y a quasiment point de muté ici à Mégis, comme dans aucune des baronnies extérieures sur ce point précis.
Vous en élevez plus de 3 sur 5 ?
On les élève tous.
Bien sûr, de temps à autre, on a un monstre qu'il faut supprimer, mais...
Quoi, pas de monstre sur 5 naissances ?
Pas 1 sur 5 né avec... Comment déjà Renfrew avait-il décrit ça ? Avec des jambes en trop, ou les entrailles à l'air ?
Son regard choqué était une réponse assez éloquente.
Qui vous a dit une chose pareille ?
Renfrew. Il m'a dit également qu'il y avait environ 570 bêtes de bon aloi dans tout Mégis.
C'est parfaitement... Elle eut un petit rire ahuri. Parfaitement saugrenu.
Si mon pas était encore ici...
Mais elle n'y est point, le coupa Roland d'un ton aussi sec qu'un rameau que l'on brise.
Puisqu'il est mort.
À l'instant, elle ne parut pas avoir noté son changement de ton.
Puis soudain, comme si une éclipse masquait son soleil intérieur, sa physionomie s'assombrit entièrement.
Mon pas a eu un accident. Vous comprenez ça, Will Dearborn ? Un accident. Ça a été terriblement triste. Mais ce sont des choses qui arrivent parfois. Le cheval lui a roulé dessus. Écume d'océan. D'après Fran, Écume a vu un serpent dans l'herbe.
« Fran Lenghir ?»«
Si fait. »
Elle n'était que pâleur, exception faite du rose de 2 églantines,
pareille à celle du bouquet qu'il lui avait fait tenir par chimie, qui lui incendiait les pommettes. Fran a chevauché bien des lieues aux côtés de mon père. Non qu'ils fussent de grands amis, ils n'étaient point issus de la même classe pour commencer, mais ils chevauchaient de concert. J'ai encore rangé quelque part un bonnet que la première femme de Fran avait confectionné pour mon baptême. Ils sillonnaient les pistes ensemble. J'ai du mal à croire que Fran Langhill mentirait sur la façon dont mon père est mort, encore moins qu'il ait quelque chose à voir avec ça. Cependant, elle observait d'un air plein de doute les chevaux en liberté. Ils étaient si nombreux, beaucoup trop nombreux. Son pas l'aurait vu. Et son pas se serait demandé ce qu'elle se demandait à présent. Ceux en surplus portaient la marque de qui ? Il se trouve que Fran Langhill et mon ami Stockworth ont eu une discussion à propos des chevaux, dit Will. Si son ton paraissait détaché, son visage était tout sauf indifférent. Autour d'un verre d'eau de source, après qu'on lui a proposé une bière et qu'il l'a refusée. Ce qui a été dit revient à peu près à l'échange que j'ai eu avec Renfrew lors du banquet de bienvenue chez le maire Thorin. Quand Richard a demandé à Silent Hill une estimation du nombre de chevaux de selle, il a répondu 400, peut-être. C'est de la démence. C'est ce qui semblerait. Tomba d'accord, Will. N'ont-ils point sapience que les chevaux sont ici à votre vue et à votre su ? Ils savent que nous avons à peine entamé notre tâche, répondit-il, et que nous avons débuté par les pêcheurs. Il faudra encore un mois, pense-t-il, avant que nous commencions à nous soucier de localiser les chevaux. Et en attendant, ils adoptent une attitude à notre égard de... Comment dirais-je ? Bon, peu importe comme je la formulerai. Je suis pas très habile avec les mots. Quant à mon ami Arthur, il qualifie ça d'affabilité méprisante. Il nous laisse les chevaux sous les yeux, je pense, soit parce qu'il croit que nous ne saurons pas ce que nous voyons, soit que nous ne croirons pas ce que nous voyons. Je suis très heureux de vous avoir trouvé ici. Simplement pour te permettre d'affiner ton décompte des chevaux. Est-ce bien là la seule raison ? Mais vous finirez bien par compter les chevaux un jour. Je veux dire, ça doit être sûrement l'un des besoins principaux de la filiation. Il lui lança un drôle de regard, comme si elle avait manqué quelque chose d'évident. Cela la remplit de confusion. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Peut-être espère-t-il que les chevaux en surplus seront loin de la baronnie, quand nous en viendrons là. Loin, où ça ? J'en sais rien, mais je n'aime pas ça. Susan, que cela reste entre nous, vous voulez bien ? Elle acquiesça. Il lui faudrait être complètement folle pour aller raconter à quiconque qu'elle avait rencontré Will Dearborn avec pour tout chaperon Flash et Pylone sur l'aplomb. Peut-être que tout cela se révélera sans importance en fin de compte, mais dans le cas contraire, être au courant pourrait être dangereux. Ce qui ramenait à son pas. Langhill leur avait dit à elle et à Tante Cord que Pat avait été jeté à terre et qu'écume d'océan lui avait roulé dessus. Ni l'une ni l'autre n'avait de raison de mettre en doute son histoire. Mais le même Fran Langhill venait de raconter à l'ami de Will qu'il n'y avait que 400 chevaux de selle à Mégis, et c'était un mensonge éhonté. Will se tourna vers son cheval, et elle en fut heureuse. Une partie d'elle-même désirait qu'il reste, qu'il se tienne auprès d'elle, tandis que les nuages passant dans le ciel étiraient leurs ombres longues sur la prairie. Mais ils étaient demeurés ensemble bien trop longtemps déjà. Il n'y avait aucune raison de penser que quelqu'un pourrait les surprendre, mais au lieu de la réconforter, cette idée, pour quelque obscure raison, accrut encore sa nervosité. Il redressa l'étrier qui pendait le long de la hampe de sa lance. Flash poussa un hennissement de gorge, comme pour dire « Il est grand temps d'y aller ». Puis se tourna vers elle encore une fois. Elle se sentit faiblir pour de bon quand son regard l'enveloppa. À présent, l'idée du cas était presque trop forte pour être niée. Elle tenta bien de se dire que ce n'était que le dîme, ou sensation de déjà vécu. Mais cela n'avait rien à voir avec le dîme. C'était le sentiment d'avoir trouvé enfin la voie qu'on a cherchée depuis le premier jour.
Je désire vous dire autre chose. Il ne me plaît pas de revenir à notre point de départ, mais je le dois.
Non,
dit-elle d'une petite voix. L'affaire est close, assurément. Je vous ai dit que je vous aimais et que j'étais jaloux, fit-il. Et pour la première fois, sa voix sortit moins affermie, affectée d'un tremblement de son gosier. Elle s'alarma de le voir avec des larmes plein les yeux. Il y avait autre chose. Quelque chose de plus. Will, je ne veux point... Elle se détourna, cherchant son cheval à l'aveuglette. La prenant par l'épaule, il lui fit faire volte-face. Malgré son absence de rudesse, ce geste était empreint d'une inexorabilité épouvantable. Levant les yeux vers lui, impuissante, elle vit qu'il était jeune, loin de chez lui, et comprit soudain qu'elle ne pourrait plus lui résister très longtemps. Elle le désirait si fort qu'elle en avait mal. Elle aurait donné un an de sa vie rien que pour pouvoir poser la paume de ses mains sur ses joues et sentir le contact de sa peau. « Votre père vous manque, Suzanne ?»«
Si fait, » murmura-t-elle, « de toutes les fibres de mon cœur. »«
Ma mère me manque de la même façon. » Il la tenait aux épaules à présent. Une larme déborda et traça un filet d'argent le long de sa joue.
« Elle est morte ?»«
Non, mais quelque chose lui est arrivé. »
« Merde, comment puis-je en parler alors que je ne sais qu'en penser ? » ?»« En quelque sorte, c'est comme si elle était morte pour moi. »«
Mais c'est terrible, Will. »
Il opina. « La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a lancé un regard qui me hantera jusqu'à la tombe. L'espoir, la honte et l'amour s'y mêlaient. La honte de ce que j'avais vu et savait d'elle, l'espoir peut-être que je comprendrais et lui pardonnerais. » Il reprit profondément son souffle. Le soir de la réception, vers la fin du repas, Rimmer a lancé une plaisanterie. Vous avez tous éclaté de rire. J'ai ri parce que cela aurait paru étrange que je sois la seule à ne pas le faire, dit Suzanne. Je n'aime point Rimmer. À mon avis, c'est un intrigant et un comploteur. Vous avez tous éclaté de rire, et il se trouve que j'ai regardé au bout de la table à ce moment précis, en direction d'Olive Thorin, et un instant, très bref, j'ai imaginé que c'était ma mère. Elle avait la même expression, vous voyez? La même que ce matin-là, quand j'ai ouvert la mauvaise porte au mauvais moment et surpris ma mère avec son...
Arrêtez!
S'écria-t-elle, s'arrachant à son emprise. À l'intérieur d'elle-même s'opérait une révolution. Toutes les amarres, boucles et autres agrafes qu'elle avait utilisées pour conforter sa position paraissaient se dissoudre comme par enchantement.
Arrêtez, arrêtez-vous, tout de suite, je ne peux pas vous écouter me parler d'elle.
Elle cherchait pylône à tâtons, car le monde extérieur n'était plus qu'un prisme dégoulinant. Elle éclata en sanglots. Elle sentit Roland lui poser sa main sur les épaules et la retourner vers lui. Une fois encore, elle ne résista pas.
« J'ai tellement honte, dit-elle, tellement honte, tellement peur, je regrette tellement. J'ai oublié le visage de mon père et
je ne serai plus jamais capable de le retrouver, voulait-elle dire. » Mais elle n'eut rien besoin d'ajouter, car il lui ferma la bouche de ses baisers. Au début, elle se laissa simplement embrasser. Puis elle lui rendit bientôt ses baisers avec une sorte d'emportement. Elle étancha l'humidité de ses yeux à lui par de douces applications de ses pouces à elle, puis caressa ses joues de ses paumes comme elle s'était tant languie de le faire. La sensation était exquise, y compris la légère râpe du soupçon de barbe sur sa peau. Elle lui glissa les bras autour du cou, le baisant à pleine bouche, le serrant et l'embrassant à la limite de ses forces, l'embrassant ici, entre leurs chevaux, qui, après avoir échangé un regard, se remirent à paître tranquillement dans l'herbe. 9. Ce furent les meilleurs baisers que Roland reçut de sa vie entière. et il ne les oublia jamais. La flexibilité complaisante des lèvres de Suzanne, la dureté de ses dents en dessous, l'urgence qui les animait, leur absence complète de timidité, le parfum de son souffle, les douces formes de son corps pressées contre le sien. Il lui prit le sein gauche en le serrant doucement et sentit son cœur qui s'affolait. De l'autre main, il lui caressa longuement les cheveux qui étaient comme de la soie à ses tempes. Il n'oublia jamais leur texture. Soudain, elle fut loin de lui, son visage enflammé de passion, et porta sa main à ses lèvres gonflées tant il les avait baisées. Un mince filet de sang coulait au coin de sa bouche, et elle le dévisageait avec de grands yeux. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait comme si elle venait de courir, et entre eux passait un courant qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait éprouvé jusque-là. Il coulait tel celui d'une rivière et le faisait trembler comme la fièvre. « Assez, » dit-elle d'une voix tremblante, « assez, je vous en prie. Si vous m'aimez vraiment, ne permettez point que je me déshonore. J'ai fait une promesse. Tout sera possible plus tard, une fois que j'aurai tenu ma promesse. Je suppose, si vous voulez encore de moi. Je vous attendrai à jamais et ferai n'importe quoi pour vous, » dit-il d'une voix calme, « sauf me retirer et vous voir aller avec un autre homme. Alors si vous m'aimez, éloignez-vous de moi, je vous en prie, Will. » Encore un baiser. Elle s'avança aussitôt, levant son visage vers le sien avec confiance. Il comprit alors qu'il pouvait faire d'elle tout ce qu'il voulait. Elle n'était plus, pour le moment du moins, maîtresse d'elle-même. Par conséquent, elle pouvait devenir la sienne. Elle pouvait lui faire ce que Martin avait fait à sa propre mère, si ça lui chantait. Cette idée mit à mal sa flamme, la transformant en une averse de charbon ardent, s'éteignant l'un après l'autre dans la nuit de sa confusion. L'acceptation de son père, « je sais tout depuis 2 ans », était de bien des façons le pire de ce qui lui était arrivé cette année. Comment pouvait-il tomber amoureux de cette fille, de n'importe laquelle d'ailleurs, dans un monde où de tels maux de cœur paraissaient nécessaires et pouvaient même se répéter? Pourtant, il l'aimait. Au lieu du baiser passionné auquel il aspirait, il embrassa à fleur de bouche la commissure de ses lèvres où ruisselait le sang. Ce faisant, il eut un goût de sel dans la bouche comme s'il buvait ses propres larmes. Il ferma les yeux et frissonna quand elle caressa les cheveux follets de sa nuque. « Je ne ferai de mal à Olive Thorin pour rien au monde, » lui murmura-t-elle à l'oreille. « Pas plus qu'à toi, Will. Je n'ai point compris, et c'est maintenant trop tard pour redresser la situation. Mais je vous remercie de ne pas avoir pris ce que tu pouvais prendre. Je ne vous oublierai jamais, ni vous, ni vos baisers. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, je crois. Comme si le ciel et la terre ne faisaient plus qu'un. Si fait. Moi aussi, je me souviendrai de vous. » Il la regarda monter en selle et se rappela l'éclair blanc de ses jambes nues dans la nuit noire où il l'avait rencontrée. Et soudain, il ne put accepter son départ. Il tendit la main, la posa sur sa botte. « Suzanne !»« Non, » fit-elle, « je vous en prie. » Et il recula, tant bien que mal.
« Ce sera notre secret ?» dit-elle.
« Oui ?»« Si fait. » Elle sourit en entendant cela, mais d'un sourire plein de tristesse.
« Dorénavant, tenez-vous à l'écart de moi, Will, je vous en prie. Moi, de mon côté, je ferai de même. »
Il réfléchit à sa proposition. « Si toutefois cela se peut, il le faut, Will, il le faut. » Et elle partit au galop. Roland, près du flanc de Flash, la regarda s'éloigner,
et même quand elle eut disparu à l'horizon, il ne cessa de fixer la direction qu'elle avait prise. 10. Le shérif Avery et ses adjoints Dave et George Riggins étaient installés sur le porche devant le bureau du shérif et la prison, quand Messire Stockworth et Heath, ce dernier avait ce stupide crâne de piaf monté sur le pommeau de sa selle, passèrent devant eux au pas de promenade. La cloche de midi avait sonné un quart d'heure plus tôt, et le shérif Avery estima qu'il se rendait pour déjeuner soit au bief du moulin, soit peut-être au repos, qui offrait de quoi se sustenter à un prix raisonnable. Popkins et autres amuse-gueules. Avery, pour sa part, aimait quelque chose de plus consistant. Un demi-poulet ou un cuisseau de bœuf le comblait tout à fait. Messire Heath le salua avec un grand sourire. « Bonne journée, messieurs. Longue vie à vous. Douce brise et heureuse sieste. » Les trois hommes lui rendirent salut et sourire. Une fois hors de vue, Dave dit « Ils ont passé toute la matinée à compter les filets sur l'acheté. Les filets. Ça ne point croire ?»« Mais si, messire, » fit le shérif, soulevant un tantinet l'une de ses imposantes fesses de son rocking chair pour lâcher un bruyant paix préprandial. « Si fait, j'y crois. »« Vous avez point tenu tête aux gars de Jonas, comme ils ont fait ?» ajouta George. Ils auraient pris pour une bande d'imbéciles. Probable qu'ils y trouvaient rien à redire, fit Avery. Il regarda Dave qui faisait tournoyer son monocle au bout du cordon en fixant la direction qu'avaient prise les deux garçons. Certaines personnes en ville avaient commencé à appeler les gamins de la filiation les petits chasseurs du cercueil. Avery ne savait trop quoi faire. Il avait calmé le jeu entre eux et les gros bras de Thorin et reçu pour sa peine des éloges et une pièce d'or de Rimmer. Mais cependant, que faire à leur sujet ? « Le jour de leur arrivée, » dit-il à Dave, « tu les as jugés mous. Qu'est-ce que tu dirais à présent ?»« À présent... » Dave fit effectuer une dernière volte à son monocle avant de le remettre en place en un tour de main et de fixer le shérif au travers. Maintenant, je pense qu'il se pourrait bien qu'il soit un peu plus dur que je l'avais cru, après tout. Ah, ouais, tu l'as dit, songea Avery. Mais dur ne veut point dire mûr pour autant, Dieu merci. Si fait. Grand merci au Dieu. Une fin de taureau, si fait, dit-il en se levant. Il se baissa, mit ses mains sur ses genoux, et lâcha un autre paix bien sonore. Dave et George échangèrent un regard. George s'éventa de la main. Herkimer Avery, chef de la baronnie, se redressa, l'air soulagé et impatient. « Plus de place dehors que dedans, » déclara-t-il. « Allez, venez les gars, allons nous en fourrer plein la lampe au bas de la rue. » 11. Même le soleil couchant ne pouvait pas faire grand-chose pour améliorer la vue que l'on avait du porche du baraquement du bar K. La bâtisse, exception faite de la cambuse et de l'écurie, seule à rester debout sur ce qui avait été le périmètre d'habitation, était en forme de L. Le porche longeait le petit côté sur l'intérieur. Ils y avaient trouvé le nombre exact de sièges qui leur étaient nécessaires. Deux rocking chairs pleins d'échardes et une caisse en bois à laquelle on avait cloué une planche branlante en guise de dossier. Ce soir-là, Alain s'installa dans l'un des rocking chairs et Cuthbert sur la caisse qu'il semblait privilégier. Sur la balustrade, face à la cour en terre battue et au tas de décombres calcinés de la ferme Garber, la vigie montait la garde. Alain était crevé jusqu'aux os, et bien que lui et Cuthbert se soient baignés dans les ruisseaux longeant la propriété à l'ouest, il sentait encore sur lui l'odeur de varech et de poisson, lui semblait-il. Ils avaient passé la journée à compter les filets. Alain ne rechignait pas à trimer, même quand la tâche était monotone, mais il n'aimait pas travailler inutilement, ce qui avait été le cas. Ambry se résumait à deux catégories, les pêcheurs et les éleveurs de chevaux. Il n'y avait rien pour eux chez les pêcheurs, et au bout de trois semaines, leur trio ne le savait que trop. Les réponses qu'ils cherchaient se trouvaient sur l'aplomb.
auquel ils avaient à peine jeté un coup d'œil jusqu'ici, sur ordre de Roland. Le vent souffla en bourrasque, et à l'instant ils entendirent le son bas, grondant et couinant de la tramée.
« Je déteste ce son !» dit Alain.
Cuthbert, silencieux et méditatif ce soir-là, contrairement à son habitude, acquiesça d'un « si fait ». Ils disaient tous comme ça maintenant, sans parler des poursures, soit, certes point, et autres nénis. Alain soupçonnait qu'ils auraient encore tous les trois un bruit sur le bout de la langue longtemps après avoir essuyé la poussière de ses chemins sur leurs bottes. Derrière eux, en provenance de l'intérieur du baraquement, montait un son bien moins agréable, le roucoulement des pigeons, et aussi, de l'angle de la bâtisse, un troisième, qu'Alain et Cuthbert avaient guetté inconsciemment tout en assistant au coucher du soleil, les sabots d'un cheval, ceux de Flash. Roland apparut, tournant sans se presser le coin du baraquement, et juste à ce moment-là se produisit quelque chose qui frappa Alain comme étrange et de mauvais augure. Une sorte de présage. Il y eut un froufroutement d'ailes, puis une forme noire fendit l'air et vint soudain se percher sur l'épaule de Roland. Ce dernier ne tressaillit pas. Regardant à peine autour de lui, il avança jusqu'à la barre d'attache et, sans descendre de cheval, tendit la main. « Allez !» dit-il doucement, et le pigeon sauta dans sa paume. Il avait une bague fixée à une de ses pattes. Roland la retira, l'ouvrit, et en sortit un minuscule bout de papier roulé serré. Il tenait le pigeon sur son autre main. « Allez !» dit Alain, tendant la sienne. Le pigeon volta sur elle. Roland descendit de cheval. Alain emmena le pigeon dans le baraquement où les cages avaient été placées sous l'une des fenêtres ouvertes. Il releva le loquet de la cage du milieu et étendit la main. Le pigeon qui venait de rentrer sauta à l'intérieur, celui qui s'y trouvait sauta à l'extérieur et de là sur sa paume. Alain referma la porte de la cage, remit le loquet en place, traversa la pièce et souleva l'oreiller de la couchette de Bert. Il y trouva une enveloppe de drap contenant un certain nombre de bandelettes de papier blanc et un mini stylo encre. Il prit l'une des bandelettes et le stylo à réservoir incorporé. Il regagna le porche. Roland et Cuthbert examinaient la bandelette de papier déroulée que le pigeon venait de leur apporter de Gilead. Figurait dessus une ligne de minuscule forme géométrique. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Alain. Le code avait beau être assez simple, il n'arrivait pas à le savoir par cœur, encore moins à le déchiffrer à vue, comme Roland et Bert en avaient été capables quasi instantanément. Les talents d'Alain, sa capacité à pister, sa facilité avec le Shining, trouvaient à s'exercer ailleurs. « Farson se déplace vers l'est, lut Cuthbert. Il a divisé ses forces en deux armées, l'une grande, l'autre petite. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Il regarda Roland, presque offensé. « Inhabituel, ça veut dire quoi ?» Roland secoua la tête. Il n'en savait rien. Il doutait même que ceux qui avaient envoyé le message, son père en faisait partie presque à coup sûr, l'aient su. Alain tendit à Cuthbert bandelette et stylo. D'un doigt, Bert caressa la tête du pigeon au doux roucoulis. L'oiseau ébouriffa ses plumes, déjà désireux de repartir dans l'ouest, semblait-il. « Qu'est-ce que je dois écrire ?» demanda Cuthbert. « Toujours pareil ?» Roland acquiesça. « Mais on a vu des tas de choses inhabituelles !» s'exclama Alain. « Et on sait que les choses tournent pas rond par ici. Les chevaux, et dans ce petit ranch là-bas au sud, je ne me rappelle plus son nom. Mais Cuthbert, si. Le Rocking Ash. Si fait, le Rocking Ash. Et il y a des bœufs là-bas. Des bœufs ? Mais Dieu, j'en avais jamais vu, sauf en image dans les livres. » Roland eut l'air inquiet. « Quelqu'un sait que vous les avez vus ?»
Alain eut un haussement d'épaule impatient. « Je ne crois pas. Il y avait bien des bouviers dans le coin. Trois, peut-être quatre. »
Quatre, si fait, dit Cuthbert tranquillement. Mais ils n'ont pas fait attention à nous. Même quand on voit des choses, ils pensent qu'on ne voit rien.
Et cela doit continuer ainsi. Roland les balaya du regard, et son visage était comme absent, comme si ses pensées étaient au loin. Quand il se tourna vers le soleil couchant, Alain aperçut quelque chose sur le col de sa chemise. Il le cueillit d'une main si experte et si rapidement que même Roland ne sentit rien. Bert n'aurait pas pu faire ça, songea Alain, avec une certaine fierté.
Si fait, mais le contenu du message reste le même, dit Roland.
Il s'installa sur la dernière marche, le regard perdu vers la rougeur du couchant.
Patience, messieurs Richard Stockworth et Arthur Heath. Nous savons certaines choses et en subodorons d'autres. Mais John Farson viendrait-il si loin rien que pour se réapprovisionner en chevaux?
Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. Les chevaux sont précieux, si fait, mais je n'en suis pas sûr. Aussi, attendons.
Très bien, d'accord, même message.
Cuthbert lissa la bandelette de papier sur la balustrade du porche avant d'y tracer une courte série de symboles. Alain pouvait déchiffrer ce message-là. Il avait vu la même séquence plusieurs fois depuis leur arrivée à Humbry. Message reçu, tout va bien, rien à signaler pour le moment. Le message fut glissé dans la bague et attaché à la patte du pigeon. Alain descendit les marches, s'arrêta près de Flash, qui attendait patiemment d'être décelé, et leva l'oiseau vers le soleil déclinant.
Haïlé !
Le pigeon s'envola d'un seul coup. Ils ne le virent qu'un instant, forme noire se découpant contre le ciel obscurci. Roland resta assis à le suivre des yeux. L'expression rêveuse ne quittait pas son visage. Alain se surprit à se demander si Roland avait pris la bonne décision ce soir. Jamais une idée pareille ne l'avait effleuré de toute sa vie. Et jamais il ne s'était attendu à l'avoir.
Roland ?
Hmm ? Fit-il, tel un homme tiré à demi d'un profond sommeil.
Si tu veux, je vais le déceler et le bouchonner à ta place, fit Alain en lui désignant Flash.
La réponse fut longue à venir. Alain allait reformuler sa demande, quand Roland dit
« Non, je vais le faire, dans une minute ou deux. »
Et il se replongea dans la contemplation du couchant. Alain regrimpa les marches du porche et se réinstalla dans son rocking chair. Bert avait repris place sur la caisse. Ils étaient derrière Roland à présent, et Cuthbert lança un coup d'œil à Alain en haussant le sourcil. Il lui montra Roland, puis regarda Alain à nouveau. Alain lui passa ce qu'il avait récupéré sur le col de Roland. Bien que ce fût presque trop fin pour qu'on le distingue sous cet éclairage, Cuthbert avait l'œil d'un pistolero et s'en empara facilement, sans tâtonner. C'était un long cheveu d'or filé. Alain vit à l'expression de Bert qu'il savait de quelle tête il était tombé. Depuis leur arrivée à Humbry, il n'avait rencontré qu'une seule fille à longue chevelure blonde. Les deux garçons échangèrent un regard. Alain discerna de la consternation chez Bert, mais aussi une bonne dose d'hilarité. Cuthbert Allgood se mit l'index sur la tempe et fit mine d'appuyer sur la tête. Alain opina. Assis sur les marches, leur tournant le dos, Roland, les yeux rêveurs, regardait mourir le soleil au couchant.